Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. J'espère que vous allez bien, moi ça va très 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 bien, puisque aujourd'hui je suis ravie d'avoir pu recevoir Emmanuel Laurent, ou plus connu sous le pseudo Mardi Noir. Emmanuel est venu chez moi, on a partagé une discussion vraiment trop intéressante, donc vous imaginez ma joie de l'avoir chez moi, on a bu un café, on a mangé des brioches et vraiment c'était trop top. Je pense que vous connaissez tous Mardi Noir, mais pour rappel, Emmanuel a une formation de psychologue, elle a une chaîne YouTube, Mardi Noir, où elle nous psychanalyse la face, clairement. Elle nous parle de psychanalyse de façon décalée, drôle et percutante. C'est aussi une brillante écrivaine, je me souviens que j'avais eu à Noël son livre « Comme psy ». Comme ça. Puis sa créativité l'avait aussi dirigée vers l'écriture d'une BD, Drosophila, avec Quentin Zution. Et dernièrement, Emmanuel a sorti un nouveau livre, Êtes-vous bien sûr d'être normal ? Je vous le recommande vivement. C'est un livre qui interroge plusieurs pensées, très actuelles, notamment au niveau des normes, des codes, de comment on évolue en tant qu'individu, mais comment aussi ça vient rencontrer une société, un groupe. Donc ça nous permet de réfléchir sur la culture, sur les autres, mais aussi sur nous, nos désirs, nos divisions. Et je vous encourage à vous pencher dessus. Donc dans cet épisode, on a pu partager plusieurs thématiques, échanger sur divers thèmes, comme le normal, les normes, le genre, la place de la psychanalyse. J'ai vraiment adoré les mots d'Emmanuel, tous ses apports, ses réflexions. Ma pensée a même continué à se construire à la réécoute de l'épisode pendant que je faisais le montage. Donc vraiment, j'espère que ça va vous plaire autant que ça me plaît, que ça m'a plu. Donc je vous laisse rejoindre notre discussion et surtout passer une très bonne écoute. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire, toi, principalement sur la normalité ?
Alors, en fait, je crois que c'est parti d'une discussion déjà avec une amie qui travaille en psychiatrie. Et on parlait donc pas mal de des personnes qui se trouvent en psychiatrie et du fait qu'il y a de plus en plus de psychologie comportementale à l'hôpital et de cette envie d'adapter les personnes dites folles à une société dite normale. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu parti de ce genre de discussion. Et d'ailleurs, on voulait peut-être même en faire un ouvrage. Et puis on nous a un petit peu dissuadé en disant que finalement, la psychiatrie, tout le monde s'en fout. Enfin, c'est un peu dur à entendre, mais que c'est pas vendeur, quoi. Mmh. Et donc j'avais aussi pas mal écouté. J'ai pas lu son livre, mais j'avais pas mal écouté Barbara Stiedler, qui a sorti un livre qui s'appelle « Il faut s'adapter » et qui parle pas mal du néolibéralisme et en fait de toutes ces nouvelles... du fait qu'on est dans un état donc libéral, avec une économie ultra-libérale, mais qu'il y a aussi pas mal d'ingérence de l'État dans finalement nos comportements et, je dirais, en premier lieu, en santé mentale. Et donc ça a commencé un petit peu à me prendre un peu la tête. Et donc, tu vois, au début, il y avait vraiment cette idée des campagnes contre le tabac, contre l'alcool, toute cette consommation de produits déviants, mais qu'il faudrait consommer de manière modérée, voire pas du tout, mais si on les consomme, enfin pour le tabac pas du tout et pour l'alcool modérément. Et j'ai commencé, enfin voilà, c'est parti de là. Et donc après, finalement, en parlant avec mon éditrice, elle m'a dit « mais ce serait super de faire un livre sur qu'est-ce que c'est être normal ». Et j'ai dit au début « ouais, super idée ». Et puis en rentrant chez moi, enfin quand j'ai commencé à y réfléchir, je me suis dit « mais ça va être un casse-tête pas possible ». Parce que finalement, qu'est-ce qu'être normal et qu'est-ce qu'être anormal ? Et d'autant plus que aujourd'hui, je me disais, mais est-ce que vraiment il y a des choses dans notre société qui peuvent être véritablement considérées comme hors normes ? Et j'ai commencé à me dire, mais pas tant que ça. Enfin, en tout cas, même s'il y a des choses minoritaires ou des comportements qui sont encore en marge ou des comportements ou des façons de se définir, etc. Enfin, tout un éventail de choses ou d'identités qui peuvent être encore considérées comme en marge, elles sont quand même de plus en plus incluses dans une forme de normalisation. Voilà, et donc j'ai commencé à m'interroger sur la frontière, en fait. Est-ce que... Et donc, en plus, en rajoutant le fait que au sein même de leurs normes, c'est-à-dire la psychiatrie, on veuille absolument... Je reprends les termes d'une psychiatre qui s'appelle Francesca Biagicci, qui dit « on veut rendre le fou plus normal que les gens normaux ». Et donc, elle faisait référence à... J'ai déjà évoqué cette anecdote ailleurs, mais à donc une personne qui était hospitalisée, qui partait en permission, et qui est partie avec une canette de bière à la main, et où les infirmières lui ont fait la morale, comme quoi il avait pas le droit de boire à l'hôpital, que c'était pas parce qu'il partait en permission qu'il avait quand même le droit de boire, et qu'en fait, il fallait pas qu'il boive. Avec vraiment cette idée, c'est pas bon pour vous, monsieur machin. Et donc, la psychiatre disait, c'est quand même aberrant. Enfin, on est là, il suffit de sortir de l'hôpital, on fait deux pas, et il y a des terrasses partout, à l'époque, où il y a des happy hours, et c'est sûr que même le personnel soignant y va, enfin... Mais là, le fou, enfin, la personne considérée comme, enfin, vraiment la figure du fou, là, c'est pas bon pour lui. Ça pourrait lui faire du mal. Et en fait, pourquoi ça lui ferait plus de mal qu'à quelqu'un d'autre? C'est un petit peu.
Bah, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus, on est justement dans cette société dans l'idée de définir en fait ce qui serait fou du côté de la psychiatrie.
Ouais.
Où il y a vraiment l'idée, en effet, que le fou, en plus, c'est toujours l'autre, quoi. C'est jamais soi. C'est vraiment... on le désigne comme fou ou comme anormal. Et c'est vrai que cette frontière entre l'État et la psychiatrie, aussi, où on le voit d'ailleurs quand il y a quelqu'un qui commet un acte criminel, quelque chose comme ça, il y a vraiment l'idée que le psychiatre, en fait, n'est plus là pour soigner ce qu'on pourrait considérer comme de l'ordre d'une souffrance, etc. Mais il est là pour protéger aussi les citoyens de... Il y aurait d'un côté les fous qu'on va justement... cloisonner, restez bien chez vous, vous inquiétez pas. En fait, il était psychotique, c'est pour ça. Donc, vraiment, le fou exclu. Et d'un côté, le normal, ce qui est assez lisse, entendable. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de ça aussi. Mais en ce moment, il y a aussi cette idée, en effet, d'un retournement de leur norme devient la norme, comme une boucle. Et t'en parles aussi, hein, qui se répète, où en fait, aujourd'hui, justement, être anormal, c'est normal. Et d'ailleurs, être normal, c'est extrêmement décevant, en fait.
C'est ça.
C'est se dire aujourd'hui, si je pense, même face à un psy, si on me demande est-ce qu'on est normal, si le psy répond oui, mais c'est dramatique c'est quand ça. Même. Et donc, il y a vraiment aussi ce retournement de... la normalité comme quelque chose qu'on exhibe, qu'on montre à l'autre. Et je trouve d'ailleurs, même on le voit avec les réseaux, où maintenant il y a énormément de comptes Insta, où dès qu'il y a une différence, elle est mise en avant, elle est fière. Et en fait,
mais,
c'est comme
mais
si...
Mais
elle...
du coup, ça devient normal. Oui. Donc ça devient aussi décevant.
Oui.
Et alors, ouais, non, mais parce que ça, c'est vraiment là où c'était le point, en fait, je crois, du bouquin. Enfin, c'était là où j'étais un peu dans un questionnement, tu vois, enfin, me dire, ok, donc on valorise la différence, on valorise la marge, mais comme on la valorise, elle devient limite une injonction et elle devient donc une norme, enfin une forme de norme. Et donc, d'une certaine manière, elle repousse encore plus aux frontières, enfin lointaines, le véritable hors norme. C'est-à-dire que je me suis dit, si finalement il y a une sorte de tendance à l'hors norme, qu'est-ce qu'on fait des vrais hors normes qui sont quand même encore parfois les oubliés des asiles, dans les asiles. Enfin, c'est pour parler un peu même. Je prends un langage suranné exprès parce que il y a quelque chose un peu de l'oubli et que ça quand même on le supporte pas. C'est-à-dire que il faut que la normalité, enfin en un seul mot, il faut quand même qu'elle soit un peu brillante quand même, un peu fière, un peu émancipée, un peu assumée. Quand c'est de l'hors norme un peu dégueulasse, c'est quand même déjà beaucoup moins toléré. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ça a commencé à me poser question. Je me suis dit finalement, est-ce que c'est pas ça rend l'hors norme encore plus détestable d'une certaine façon. On croit qu'on est hors norme, enfin on l'est de toute façon, je pense fondamentalement. Ça c'est, mais dans cette espèce de superficialité de l'hors norme qu'on met en avant, j'ai l'impression que finalement, on est hyper normé.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi ce ressenti à un moment, peut-être de la vie, qu'il y a eu un sentiment de honte, de dévalorisation, suite à une différence, par exemple, qui est aujourd'hui une demande de reconnaissance.
C'est vrai, oui.
Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui est très nouveau en ce moment, c'est que justement, on demande à être identifié, reconnu dans sa différence, ce qui avant peut-être faisait défaut. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça fait dire, est-ce que justement, si on demande aux autres de nous reconnaître comme différents, mais aussi acceptés, est-ce que ça vient faire aussi un retournement à l'intérieur où justement cette différence, cette difficulté du fait qu'elle soit aujourd'hui valorisée,
finalement elle se fond dans le moule. En fait, j'ai l'impression qu'on rentre dans une sorte de paradoxe qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement il y a quelque chose de la différence qui est mis en avant et qui est sans doute parfois pouvait être rejeté ou montré du doigt et toujours d'ailleurs, hein. Je pense pas non plus, on vit pas un monde où où tout est merveilleux et tout le monde est accepté, c'est loin d'être vrai. Mais effectivement, il y a plus il y a moins de honte aujourd'hui à dire, oui, je suis comme ci, je suis comme ça, de trouver des lieux aussi où on peut s'exprimer, notamment sur Internet, donc ça permet quand même des trajectoires sans doute, j'espère, plus douces pour certains. Mais du coup, arrive toujours un point de butée où finalement, on met en avant sa différence, mais à partir du moment où elle devient super acceptée au final, on voudrait garder quand même ce petit point de différence parce que c'est quand même agréable d'être différent, mais en même temps, on se rend compte qu'on est complètement inclus dans un moule. Donc, je pense que ça donne aussi des schémas, je parle pas des individus en tant que tels, des sujets, mais vraiment plus en termes de collectif, ça donne parfois des choses un peu absurdes, notamment sur Instagram où moi des fois je lis finalement 4 témoignages à la suite de personnes qui vont dire finalement exactement la même chose, à savoir je suis différent, on m'a souvent dit ça, mais maintenant je m'assume et c'est formidable, etc. Et en fait je lis 4, 5, 6 fois le même témoignage et je me dis en fait c'est la norme en fait. Voilà, et donc c'est drôle.
Ouais, mais c'est intéressant la norme aussi, ce qu'elle fait, ce qu'elle vient de dire pour la société aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, et d'ailleurs c'est la thèse aussi de Foucault, de dire qu'en fait ce sont plus les lois qui régissent l'ordre social d'une certaine façon, c'est la norme.
Ouais.
C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement des présupposés dits normaux qu'on va en fait tous aussi s'aligner dans ces normes-là, même qui se veulent des fois être hors normes, et qu'en fait, la loi, elle vient juste dire ce qui est autorisé, interdit, mais ce sont les normes, en fait.
C'est surtout les normes,
ouais.
J'ai l'impression aujourd'hui qui régulent quelque chose. Ouais. Et d'ailleurs, tu parlais de la loi, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins, ça aussi j'en parle dans le livre, mais il y a quelque chose aujourd'hui de l'ordre de où il faudrait quand même aussi énoncer ce qui est permis pour que ce soit vraiment permis. C'est on dit beaucoup aux autres. C'est pas moraliser le terme, mais on normalise les rapports sociaux. C'est-à-dire, je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression qu'on passe son temps à, mais notamment sur les réseaux. Alors, on va me dire, c'est pas la vraie vie. En attendant, j'ai l'impression qu'elle
pour
s'est,
le moment,
elle s'est un peu déportée sur les réseaux, quand même, la vie. Ouais. Donc, mais il y a quand même, je trouve qu'on passe beaucoup de temps sur les formes, en fait, de discours. C'est-à-dire, comment s'adresser à l'autre, comment supporter, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas t'adresser à moi comme ça, tu ne peux pas, il faut dire les choses de cette manière-là, j'aime pas votre ton, enfin, c'est une espèce de truc où on est beaucoup sur la forme et moins sur le fond. Mais peut-être que c'est une façon, c'est peut-être transitoire, mais je trouve que c'est compliqué de débattre actuellement avec cette idée que justement il y a une loi un peu silencieuse et qui nous protège, et où finalement après, bah, il y en a qui vont être complètement colériques, hystériques, tout ce qu'on veut. On supporte moins ça. Il faut quand même que ça soit un peu... on parle beaucoup de respect. Enfin, je trouve qu'il y a moins de... Enfin, quand ça déborde, on supporte de moins en moins quand même. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut être différent et on veut dire... oui, on n'est pas lissé et on n'est pas... je sais pas, on a des aspérités. Mais je trouve que quand il y a une aspérité qui déplaît un peu trop... y a pas vraiment de tolérance de cette aspérité. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des discours super lissés, avec beaucoup d'autocensure. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Je sais pas si...
C'est vrai que oui, il y a vraiment quand même cette volonté de faire reconnaître sa différence, tout en la gardant comme différente. Parce que justement, on n'aurait pas envie d'être dans le normal, mais en même temps... Si on regarde trop cette différence, ou si on l'accepte pas, ou si l'autre, en tout cas, n'a pas les bons codes pour entrer en contact cette différence, là, ça ne va plus.
Ouais.
Et c'est vrai que je trouve que il y a vraiment l'idée, et t'en parles aussi très bien dans ton livre, j'ai trouvé ça intéressant, qu'en fait, on doit savoir toujours qui parle, d'où il parle, enfin, d'où chaque personne parle, et que... Je trouve qu'il y a vraiment cette idée que le corps de l'autre, donc les attributs de l'autre, ne sont plus une reconnaissance aussi. C'est-à-dire que, par exemple, je te vois avec des attributs féminins, mais en même temps, je ne pourrais pas dire que tu es femme. Enfin, si par exemple...
Si toi, je ne l'ai pas dit avant.
Oui.
C'est ça.
Enfin,
oui.
Vraiment l'idée que... Et c'est pas du tout dans l'idée de c'est bien ou pas bien.
Non, mais passe moins par l'autre.
C'est ça.
Et ça, c'est quand même très déroutant. Il y a quelque chose... Oui, c'est vrai que je repense forcément à cet épisode qui avait fait rire beaucoup de personnes. Je peux comprendre d'ailleurs pourquoi ça avait fait rire, surtout que ça date maintenant de plusieurs années. Donc c'était encore moins... c'était encore moins la norme hier qu'aujourd'hui, mais donc de cette personne qui, sur le plateau de Daniel Schneiderman, avait dit qu'il n'était pas un homme, alors que socialement, en tout cas dans ce que nous on se représente d'un homme, il avait l'air d'un homme. Mais lui disait qu'il n'était pas un homme, et en même temps c'était, je pense, enfin je crois, je ne sais pas, je voudrais pas faire de la diffamation, mais je crois que c'était quand même aussi un peu provoque. Enfin, c'était un petit peu pour dire, justement, pour faire parler un petit peu des théories de construction de genre, etc. Et forcément, je crois que ça déroute quand mon jugement, en fait, de l'autre est remis en question sur des bases qui, à l'origine, en tout cas, enfin, pas à l'origine, comme si c'était depuis la nuit des temps, mais en tout cas, sur lesquelles on s'était à peu près accordé en société. Et donc là, c'est des nouvelles bases qui sont en train de se construire aussi. Et donc, ça demande forcément du temps d'adaptation, c'est le cas de le dire, de nouvelles normes pour s'y habituer, quoi.
Ouais.
Et qui, en plus, cohabitent avec quand même encore... l'ancienne norme qui est quand même toujours très en vigueur et qui est quand même encore majoritaire. Ouais. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est que ça cohabite.
C'est que aujourd'hui, c'est comme si au final, le corps n'est plus un amas de cellules, d'organes, c'est surtout un discours aussi.
Oui.
Vraiment, en fait, que notre perception, qui est forcément aussi biaisée par les normes, nos représentations, ne peut plus tenir tant que l'autre aussi ne s'est pas présenté.
Déclaré.
Voilà, déclaré. Et c'est assez particulier parce que au final, il y a cette idée qu'on ne veut plus être genré, mais en même temps, le genre devient la rencontre.
En fait, j'ai l'impression aussi qu'on ne supporte plus que l'autre se trompe sur nous. Parce que bon, parfois, je sais pas, moi j'ai quand même la sensation que ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'entendre d'autres personnes s'adresser à moi ou parler de moi et dire un nombre d'inexactitudes en pagaille. Mais ça me venait, je laissais pisser. C'est-à-dire, alors sauf si ça touchait vraiment, je dis non là par contre c'est pas vrai, mais bon, que l'autre se trompe et qu'en même temps dans sa tromperie d'une certaine façon, il puisse aussi y avoir une part de vérité. Enfin, c'est-à-dire que parfois l'autre se trompe, mais ça peut aussi amener à se dire ah tiens c'est marrant qu'il pense ça de moi ou qu'elle s'adresse à moi comme ça ou enfin. Moi, on m'a déjà appelé monsieur à une époque quand j'avais donc les cheveux très très courts, de dos et que j'étais habillée en jogging. Je sais plus, parfois je disais non, je suis une femme, des fois je disais rien, ça m'amusait. Enfin, cette espèce de... mais bon, peut-être aussi parce que, je sais pas, il y avait quelque chose de... Je crois que ça me passait un peu au-dessus. Enfin, et peut-être que je suis privilégiée, peut-être que plein de choses en rapport avec ça, mais c'est vrai que... Il y a quelque chose de très sérieux actuellement, je trouve, dans l'identité. C'est très sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On dirait qu'il n'y a pas de... On ne peut pas vraiment en rire. C'est peut-être un peu provoque ce que je dis, mais c'est... Et effectivement, tout à l'heure, tu disais, on rappelle beaucoup d'où on parle, qui on est, etc. Et je trouve qu'effectivement, il y a une tendance à toujours devoir rappeler que tel discours provient d'une personne qui est ceci ou d'une personne qui est cela. Et finalement, le discours en lui-même, d'un coup, va devenir... va passer en dessous, va être minoritaire par rapport à l'identité de la personne. C'est ça qui va finalement donner un peu le... Est-ce qu'on va trouver que le discours a de la valeur en fonction de l'identité de la personne qui le dit? Enfin, voilà, il y a un peu de ça aussi. Et je trouve ça, c'est particulier.
Oui, puis c'est vraiment lié avec cette idée qu'aujourd'hui... on a besoin de savoir qui on est, ce qu'on veut. Enfin, il y a vraiment ce qui amène beaucoup de le développement personnel ou le côté coach, etc. Ce qui encore une fois, n'est pas forcément que critiquable, mais de vraiment en fait se définir toujours. Donc que notre identité, il faut la connaître déjà. Donc c'est-à-dire qu'on on est obligé, on ne peut plus être dans le point d'interrogation, ce qui est le fondement quand même de
non,
ce
non, c'est...
qu'on est. On n'a plus le droit de ne plus savoir aussi.
Je suis entièrement d'accord.
Et moi, je le vois dans ma pratique aussi, de justement des patients qui viennent avec l'idée de il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont hommes, pourquoi ils sont femmes, pourquoi ils sont amoureux, pas amoureux, pourquoi tel travail. Et ça s'entend.
Enfin,
voilà, c'est. Mais c'est juste qu'on peut plus laisser place au point d'interrogation qui est pourtant très fondateur aussi.
Bah oui. Non, mais je te rejoins complètement parce que c'est vrai que j'ai quand même été moi-même traversée quand j'étais ado ou jeune adulte de cette question de la féminité. Enfin, ça m'arrivait par vagues un peu, mais c'était vraiment des vagues. Il y avait quelque chose où je ne pensais jamais au fait que j'étais de genre féminin. C'est-à-dire, c'est vrai que j'y pensais pas. Et par contre, quand on me disait que j'étais une femme, il y avait quelque chose qui me... bah, qui me diffamait un petit peu, pour le coup, enfin, qui était un peu, on me diffame là, c'est-à-dire que c'est, wow, c'était trop, il y avait quelque chose d'un trop, c'est-à-dire que je suis d'accord d'avoir un sexe reconnu comme sexe féminin, je suis d'accord d'avoir des normes dites féminines, enfin, de l'époque très encore genrée, années 90, voilà. Je mets un peu de maquillage, je me laisse pousser les cheveux, etc. Enfin, des trucs complètement binaires, typiques, tout ce qu'on veut. Mais dès qu'on me disait que j'étais une fille ou une femme de l'extérieur, ça me faisait un peu un effet étrange. Mmh. Où je me reconnaissais pas forcément dans ce mot. C'est-à-dire, je me reconnaissais comme moi, Manu. Mais après, devoir définir ce genre était... Mais c'était pas du tout dans l'idée où, en fait, je pensais que j'étais un garçon ou quoi. C'était rien à voir. C'était juste comme si le mot venait un peu trop saturer une sorte de ressenti qui, d'un coup, ça correspondait quand même pas complètement. Il y avait quelque chose qui disait pas tout de moi. Et donc, j'ai grandi donc vraiment comme ça. Et puis, c'est vrai que par contre, cette identité qu'on a aujourd'hui, puisqu'on est quand même dans les identités, vraiment, le fait de commencer à me réfléchir comme femme, à me dire vraiment, bon, ok, je suis une femme, qu'est-ce que ça implique? C'est venu des autres. C'est-à-dire, à force qu'on me dise, mais quand même, en tant que femme, comment ça se passe dans tel endroit, dans la rue, dans le harcèlement, le soir, le machin, le... Et au début, j'étais, mais... Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même... Je sais pas comment, c'est pas du tout une plainte, parce que je pense qu'on est quand même tous très responsables de soi. Mais j'ai quand même la sensation que c'est l'extérieur qui m'a un petit peu imposé d'y réfléchir. Les discours m'ont obligé à réfléchir à ça. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être une bonne chose, enfin c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose, mais c'est vrai que, avant, j'y réfléchissais pas, et d'ailleurs j'étais dans des, j'en parle aussi dans le livre, c'est ça qui est après intéressant en après coup, c'est que je me rends compte que j'étais aussi dans des comportements et dans des situations finalement extrêmement stéréotypées du féminin, mais sans avoir les mots pour le qualifier comme tel. J'avais l'impression que c'était plus moi. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même aussi quelque chose de très cliché dans ma façon d'être avec les hommes, même dans une forme de masochisme... assez dingue, quoi. Enfin, vraiment, d'être une sorte de, presque, de caricature, parfois. Alors, pas forcément comme ça dans mes relations sociales, mais en tout cas, dans les relations amoureuses, ouais, quand même. Et même par rapport à ce qui se passe dans la rue, ou les micro-agressions que peuvent subir les femmes, avant qu'on m'en parle et qu'on m'en reparle et qu'on limite, on m'oblige à penser à ça... Moi, pour moi, c'était tellement intégré que... Enfin, c'est-à-dire que j'arrivais même pas à prendre conscience que c'était parce que j'étais une femme qu'on m'abordait dans la rue. Pour moi, on m'abordait dans la rue parce que, je sais pas, on m'abordait dans la rue. Et en fait, ça me... Il y avait des fois, ça me saoulait, et des fois, ça m'amusait. Enfin, c'est ça qui est hyper bizarre, parce que d'un coup, c'est vrai que quand je me suis mise à y penser, je me suis rendu compte, effectivement, à quel point... au moins avec les masques, aujourd'hui, il faut le dire. Mais effectivement, le nombre de fois où on m'adresse la parole, où on me regarde, et en fait, des fois, ça m'embête d'en avoir pris conscience, presque. Parce que, je sais pas, c'était quelque chose qui était comme une petite musique avant, et c'est pas pour dire que c'était mieux avant, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est intéressant de voir que, effectivement, une norme discursive peut venir aussi à un moment impacter, quand même la vie psychique et faire changer de regard sur les situations. C'est pas juste le travail sur soi qui fait ça, la norme fait aussi ça. Voilà. Et des fois dans le bon, et aussi parfois je pense dans le pas bon.
C'est vrai que ça me fait penser aussi par rapport à tous ces questionnements qu'on peut avoir en tant qu'individu aussi, de cette place... notamment que peut avoir la psychanalyse aussi dans ces questionnements-là qui je trouve est vraiment intéressante entre interroger le hors norme, l'individu, de comment on se construit avec des normes, comment en même temps est-ce que la norme précède justement l'individu, ouais. Ou est-ce qu'en fait l'individu est déjà là et après doit aussi se façonner avec la norme. Et puis surtout, enfin moi ce que je sais que c'est ça fait partie aussi de ce qui a pu te parler dans l'écoute avec la psychanalyse et donc dans l'écoute aussi de soi dans ces moments-là, d'un discours en fait hors norme.
Complètement.
Et qui justement est très, pour moi, très apaisant. C'est-à-dire l'idée en fait que mon discours peut être hors norme, peut être normé, et je peux avoir aussi des questionnements qui ne sont pas de l'ordre du réel. C'est-à-dire aussi... oui, se demander le féminin, le masculin, le sexuel, enfin, je sais pas, tout, sans qu'en fait on soit dans quelque chose de du bon, du mauvais,
c'est ça,
de l'interdit,
ce que j'allais dire, c'est
de
que
l'autorisé.
La psychanalyse ne valide pas ce qu'on dit. Comme il n'y a pas un tampon qui dit ça, t'as droit, ça, t'as pas droit. Il y a d'une certaine façon, et surtout il y a un décalage en fait. On est sur une autre scène, enfin c'est vraiment, c'est pas du tout la scène sociale, même si évidemment elle est ramenée dans le cabinet, parce que on la ramène forcément au cabinet de la cure, mais c'est quand même, l'idée n'est pas de, ce qui intéresse vraiment c'est les ressorts inconscients et qu'est-ce qui fait sens pour soi à un moment donné, ou qu'est-ce qui fait hors sens aussi, d'ailleurs. C'est pas juste ce qui fait sens, mais ce qui vient faire vraiment énigme, et qui n'est pas, qui ne rentre pas dans une case, et qui est aussi un sens singulier, qui échappe finalement à tout le monde sauf à soi. C'est ça aussi qui est assez chouette. Ouais, non, mais c'est hyper apaisant. Ça soulage.
Ouais, et je trouve que ce discours justement hors norme que peut amener la psychanalyse, c'est l'idée que il n'y a pas de position à avoir, parce que c'est vrai que je vois qu'il y a vraiment des débats aussi enflammés. Est-ce que la psychanalyse serait avant-gardiste de, par exemple, de tous ces nouvelles études de genre, ou alors est-ce que
au contraire,
c'est-à-dire est-ce qu'on peut être féministe et psychanalyste, ou est-ce qu'en fait non,
parce qu'elle n'est pas hétéro-patriarcale, c'est ça, à jamais.
Puis même, est-ce que Freud en fait serait un avant-gardiste féministe pour la bisexualité et tout ça, ou alors est-ce que ça serait un tyran phallocrate,
misogyne,
oui,
et
voilà,
abominable.
Il y a vraiment ces questions-là.
Mais du coup, c'est ça qui est drôle aussi. Je trouve que ça montre aussi que ce discours n'est pas un discours de vérité en soi.
Non.
C'est-à-dire que il est sujet à interprétation, et en ça, c'est déjà intéressant. Enfin, je trouve que il y a quelque chose de, c'est ça qui est à la fois qui certains pourraient dire dangereux. Parce qu'effectivement, on peut construire une pensée à partir de textes psychanalytiques. Il y a quelque chose vraiment à piocher là-dedans. Et en même temps, c'est ça qui lui permet d'être en mouvement et qui lui permet d'évoluer, et que c'est pas justement un savoir figé, et que qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours un fil à tirer pour se rendre compte que déjà là, effectivement, on peut se dire, ah tiens, il est quand même pas sûr que... c'est ça que j'aime bien quand même dans les textes de Freud, c'est que parfois il avance des choses de façon quand même assez, il les pose quoi, c'est la différence sexuelle, les machins, mais il y a quand même toujours un moment dans le texte, à un endroit où on va quand même se dire, enfin c'est quand même super bizarre parce que l'autre jour tel patient ou telle patiente disait ça et finalement ça correspond pas. Et c'est ça qui est, c'est qu'à la fois il y a une boussole théorique qui peut essayer un peu, justement, peut-être même un peu normative, mais l'idée, c'est toujours de se rendre compte que ça, c'est juste une boussole. Mais c'est pas vraiment... c'est pas un discours d'application sur des individus. C'est d'abord les individus qui font émerger une vérité à eux, et après, la boussole, elle est juste là pour se dire, tiens, comment je pense avec ce sujet-là ? Non pas du tout pour le mettre dans un discours qui serait le vrai, mais qui dit tiens, c'est intéressant, il y a un petit décalage par rapport à ce que moi je pensais, et en fait être ouvert aussi à ce décalage.
Rebonjour, c'est la moi du montage. Alors on a eu des petits travaux pendant notre enregistrement, qui nous ont obligés à couper, à faire une petite pause, donc on a dû s'arrêter un petit peu avant de poursuivre notre discussion. Donc je me suis dit qu'autant couper l'épisode en deux, ça serait plus clair. Et puis c'est pas plus mal parce que nous avons parlé pendant un bon moment et j'ai du mal à publier sur mon site des épisodes de plus de 40 minutes. Faut que j'arrive à trouver une solution pour les épisodes plus longs. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas sadique, donc la suite est déjà en ligne, juste au-dessus. Vous allez pouvoir cliquer et reprendre le fil de nos échanges. Alors, à de suite. Salut !